des critères de choix des juges. Pour la tradition, on préfère des juges qui soient très âgés, qui ont l'expérience de la vie. On a plus de chances d'un jugement vrai. Les jeunes ont tendance à être, rigides. Et est-ce que c'est clair ce que je dis ? Okay. Il faut se méfier des jeunes juges, parce que le jugement. Qu'est-ce que vous avez dit ? C'est possible, mais j'essaie d'exprimer le critère central. Okay. Je crois que, je ne sais pas si nous avons étudié ça ici. Une Mishnah, le juge ne doit pas se prendre ni pour l'avocat ni pour l'accusateur public. Et le grand échec, c'est quand le juge croit que son rôle, c'est d'accuser. Son rôle, c'est pas d'accuser, c'est de juger. Et en hébreu, ça se dit justifier, rendre juste. Le tzaddik, v'tzaddiku et tzaddik, v'yirshiru et rachar. Le verset dit, et ils diront que le juste est juste, tzaddiku et tzaddik, ils diront que le rachar est rachar. Ça veut dire ne détourneront pas l'honnêteté du jugement. Alors, où est le chidouche, si j'ose dire ? Cette prérogative, cette capacité de dire d'un juste qu'il est juste et d'un rachat qu'il est rachat. C'est-à-dire, l'innocent sera innocent, le coupable sera coupable. Consigne de la Torah. Mais ça va de soi. Ça veut dire, yitzdiku et tzadik. Ils justifieront le tzadik. Ils sauront qui est tzadik malgré les apparences. Et ils sauront qui est rachat malgré les apparences. Est-ce que c'est clair ? Top. Et c'est pour ça, je crois qu'il faut beaucoup d'expérience. Je crois que c'est quelque chose de très anormal qu'il y a en médecine. Je pense que c'est clair. Que plus un médecin est âgé, s'il est vraiment honnête, bien entendu, et plus il est médecin. Okay, on pourrait dire ça. Nahol ? On va dire ça comme ça. Oui. Bien. Alors, je continue. Le Khar Tzarich HaAdam. Ah oui, non, le chidouche ici du Maharal, c'est qu'il a d'abord parlé du Sechel Elyon. Maintenant, il parle du Sechel Eloki. Ne croyez pas qu'il se répète. Hein? C'est le Sechel comme Dieu le connaît. Sechel Eloki. L'intelligence divine. Voilà, vous percevez l'importance. Cet aspect du sujet, on va le retrouver à la table ronde de dimanche. L'Echach, Tzarich HaAdam, Shei Rachok Min Amidot, Sheim Gashmiim. C'est pourquoi l'homme doit s'éloigner des tendances matérielles. Je vais traduire autrement encore. Il doit s'éloigner des midot, c'est-à-dire des tendances de comportement qui seraient matérielles. Mais tzarich le dabek bemida shehi sichlit. Il doit s'attacher à une attitude morale de mida, de qualité, qui soit sichlit, intellectuel, dans le sens de abstraite, dégagée de ce qui est matériel. Vous voyez, qu'est-ce qu'il appelle sichli, ce qui n'est pas gashmi. Est-ce que c'est bien clair? Veikar amida, shehi sichlit, et l'essentiel de cette qualité qui est intellectuelle, hi ha'anava, c'est l'humilité. Comme la chose sera expliquée en son endroit, il y a un chapitre entier sur la conduite d'humilité. Mais ici, c'est la conduite d'humilité comme condition indispensable à l'atteinte de la vérité de la connaissance. Et c'est pourquoi il est impossible d'acquérir la Torah qui baal midazot, si ce n'est à celui qui possède cette vertu, cette qualité. Et nous verrons d'ailleurs qu'il y aura à citer l'exemple de Moïse, dont la Torah le dit de façon très directe, qu'il n'y avait pas d'homme plus humble que lui. Qu'est-ce que ça signifie, humble, dans ce sens-là ? Alors, je récapitulerai cette introduction en disant, c'est pas seulement une concession à la piété habituelle, que l'humilité est une vertu pour elle-même, c'est la désignation d'une attitude de la pensée qui est indispensable pour que l'accès à la vérité soit authentique. Alors, nous penserons dans la deuxième partie du cours simultanément à la vertu d'humilité, à son contraire qui est l'orgueil. En quoi l'attitude de l'orgueil est un obstacle à la vérité vraie. Et vous voyez comment cela se déploie dans l'enseignement même du Maharal, Nous allons, si vous voulez bien, prendre quelques minutes. Et on se retrouve dans 5-6 minutes. Je crois que j'ai besoin de carburant. Moi, ça arrive souvent qu'il fasse l'hiver en été. Oui, je suis arrivé. Il faisait très, très beau là-bas. Je voudrais vous demander, avant de commencer, est-ce que, parce que quand on arrive ici, on est tellement sevré des nouvelles là-bas, est-ce que quelqu'un a le moyen d'avoir un journal israélien en ville? Connaît un moyen? Je sais pas. Marie, viens dire autre, moi je sais pas. Hein? Bon, je peux vous demander une tova, mais un seul. Que vous en ameniez un chaque matin. Mais c'est du jour ou une récapitulation? Ah, c'est ça que je veux. À côté de quoi? Ah. Mais ils vendent le journal du jour ou c'est la semaine? De la veille. Bessader, entendu. Sur qui je peux compter? Vous croyez que j'ai le temps?
Je vais transformer votre verre, monsieur.
Merci. Bien. Alors, on prend le deuxième paragraphe. Vous repérez Kama de Taranit. Dans le premier chapitre du traité Taranit, et vous avez une erreur dans l'édition. La référence n'est pas page 6, mais page 7, Zayin, et pas 20, Amoud Alef, 7a. Amar Rav Hanina Bariddi. C'est un enseignement de Rav Hanina Bariddi qui dit Lama nimshelu divrei Torah lamaim. Pourquoi les divrei Torah, les paroles de la Torah, ont été comparées à l'eau? C'est un verset d'Isaïe. Dirent-ils, d'après ce que dit le verset, Hoi kol tzame lechu lamaim. Ô, tout celui qui a soif, allez à l'eau. Il y a donc deux indications. Tsame, celui qui est assoiffé, qui a exigence d'étancher sa soif, c'est une condition nécessaire. On ne peut, si vous voulez, goûter l'eau dont on a besoin que si on est assoiffé. L'idée est claire. Il faut d'abord qu'il y ait donc exigence de cet accès à l'eau de la vérité, et d'autre part, pourquoi la Torah est comparée à l'eau, ce que nous allons étudier avec le Maharal d'après cette référence. L'Omar Lecha, c'est pour te dire, ma maim menichim makom gavoa, de même que l'eau quitte un endroit élevé, les aniach, ça veut dire laisse de côté, se détache de l'endroit élevé. Veholchim le makom namour et vont à un endroit namour bas. Vous voyez donc quelle est l'idée. L'endroit élevé sera relié à l'idée d'orgueil et l'endroit bas à l'idée d'humilité. Vous voyez le geste de l'eau qui naturellement tend à quitter les hauteurs pour descendre vers le bas. Af divrei Torah, de même les paroles de la Torah, en mit kayemim, ne se réalisent ela bemi chez Dartosh Fela, uniquement chez celui dont la da'at, la connaissance, il faudrait dire la conscience, est humble, shafel, bas. Donc il y a une allusion directe dans cette source, l'intention du Talmud ici est très claire. C'est pas tellement de faire l'exégèse du verset du prophète que tout celui qui a soif va, aille là où il y a de l'eau, avec la signification qu'il faut exigence, comme la soif, pour que la connaissance soit efficace. Mais plus que cela, pourquoi c'est cette comparaison qui a été choisie par la parole du prophète? Eh bien, un nouvel enseignement apparaît. L'eau quitte les hauteurs pour se diriger vers la vallée, enfin vous comprenez l'image, et cela signifie que l'eau ne peut pas rester à un endroit élevé. La Torah ne peut pas rester chez celui qui se prend pour élevé, l'orgueilleux, et elle ne se réalise et ne devient efficace, effective, que pour celui qui est capable de s'abaisser. Nous verrons tout ce que nous pouvons apprendre de cette relation entre ces deux principes. Ve'amar Rav Hoshaya, c'est la suite de la même Gemara, Rav Hoshaya ajoute, Lama nimshelu divrei Torah, ve'shalosh mashkin. Pourquoi les paroles de la Torah sont comparées à ces trois breuvages, kamayim, vekayayim, vekachalav? La Torah est comparée à l'eau, au vin et au lait. Effectivement, il y a des versets qui, chaque fois, font allusion à cette comparaison que donne le prophète entre la Torah et l'eau, la Torah et le vin, la Torah et le lait. Donc, trois niveaux de connaissance de la Torah à travers ces trois significations-là, nous allons le voir en détail. Alors pour l'eau, dirtiv, hoy kol tzameh lechulamayim, comme l'enseignement précédent, le verset qui dit que celui qui a soif aille à l'eau. Urtiv, et il est écrit dans la suite du contexte, lechu shibru belo kesef, allez acheter le lishbor, ça veut dire vous connaissez le mot le mashbir, ken? Celui qui fournit à celui qui a besoin, Lishbo. Disons, allez, acheter bloqué, sans argent, ou blomechir et sans prix, yain vechalav et le vin et le lait. Et dans ce deuxième verset, la Torah est comparée au vin et au lait. L'omar lecha, c'est pour te dire, mashlosha mine mashkin halalu. De même que ces trois breuvages, en mitkaimim elabepachut shebekelim, ne se conservent, ne se réalisent que dans des ustensiles les moins de prix, je veux dire les plus apparemment, je veux éviter le mot grossier, alors aidez-moi à traduire, ville, commun. Okay. Le maral va nous expliquer, si on met du vin dans des vases de métal, eh bien, le vin s'altère, de même le lait. Il faut des terrines de, par exemple, très bien, vous avez compris. Et Af dibre Torah en mitkayimim, de même les paroles de la Torah ne se réalisent, et la bémiche est d'artoshfela, que chez celui dont la conscience est capable d'humilité, d'artoshfela alam. Alors vous allez passer les quelques lignes qu'il y a jusqu'à la fin de la colonne, et nous reprenons en haut de la deuxième colonne. Ici il y a un passage qui est important dans l'étude de la Gemara pour elle-même, mais que je vais un peu mettre entre parenthèses pour aller plus vite. Rabbi Eliezer Omer, troisième enseignement sur le même sujet, Rabbi Eliezer dit « Mashlosha mashkin alalu » de même que ces trois breuvages « Nifsalin be seachdaat » s'altèrent sans qu'on ait le temps de s'en rendre compte. Et « seachdaat » ça veut dire le mot m'échappe en français en un clin d'œil. Ça arrive sans crier gare, ça arrive subitement, oui. Ça veut dire, ces trois breuvages peuvent s'altérer apparemment sans cause. Il y a toujours une raison qui fait qu'ils s'altèrent, mais sans qu'on y prenne garde. Avdi Bretora, Mishtakhim, Bese Achadat. De même, les paroles de la Torah s'oublient comme ça, subitement. Atkan, jusque-là, la citation, et nous allons l'étudier avec le Maharal. Donc, deux idées. D'abord, la condition de l'humilité indiquée dans ces comparaisons de la Torah avec l'eau, surtout, et le vin et le lait. Et d'autre part, le caractère de vulnérabilité de cet acquis de connaissance, un peu à la manière de l'eau qui peut s'altérer, ou le vin ou le lait. Ce sont de deux indications précises que le Maharal va mettre en évidence à partir de cette citation. Nous allons tout de suite le rattacher à ce que nous avons vu dans l'introduction. Étant donné que les connaissances de la Torah, c'est un acquis, ce n'est pas inné. Il y a une autre source dans la Gemara qui dit « La Torah ne se reçoit pas en héritage. » J'ouvrirai une parenthèse là-dessus tout à l'heure. Elle n'est pas connaturelle à l'homme. Elle est révélée. Elle vient de l'extérieur de son identité. Il faut une certaine attitude. Et encore une fois, c'est essentiellement de l'ordre des vertus de la moralité. Pour pouvoir être celui qui reçoit cette Torah, elle est donc plus apte à telle ou telle manière d'être homme. C'est évident, mais quel que soit l'homme, fût-ce Israël, comme nous allons le voir, eh bien, elle n'est pas conaturelle. C'est un acquis. Et tout ce qui est acquis, tout ce qui n'est pas, comment dire, essentiel à une nature donnée, est vulnérable. On peut le perdre. Tout ce qui a été acquis peut être perdu. Et vous voyez donc jusqu'où la Gemara pousse cette comparaison. D'une part, il est nécessaire d'avoir cette vertu d'humilité pour que l'acquisition soit possible, et d'autre part, cette acquisition est aléatoire à la manière donc de ces comparaisons avec l'eau, le vin. C'est clair? Top. Alors on commence. Bema Amarazé, dans cet enseignement, Balevaer, Ezemidaï de Bakba, le Talmud vient éclaircir, élucider quelle qualité, à quelle qualité doit-on s'attacher. Jusqu'à ce que, grâce par le biais de cette qualité, il est possible de mériter d'obtenir la Torah. Dans la notion de zechut, iske, mérite, il y a une notion de mérite moral et il y a une notion d'être approprié au fait de pouvoir obtenir. Ve'amida azot ya'anava. Cette qualité, cette vertu, c'est l'humilité. Umida ha'atzmit chez Garma le Moshe, chez Haya Mekave la Torah. Et c'est la vertu essentielle, et ça signifie en même temps la vertu personnelle, qu'il possédait personnellement, qui a permis à Moïse d'être celui qui a reçu la Torah. Hi ha'anava, c'est l'humilité, chez Haïta Imo, qui se trouvait avec lui, auprès de lui, Moïse. Yoter mi'im kol ha'adam, plus qu'avec tout homme, asher al pene adama, qui était sur la surface de la terre, c'est la citation du verset qui parle de Moïse, ve'aish Moshe anav, mi'kol ha'adam, asher al pene adama. Et l'homme Moïse était humble, plus que tout homme sur la surface de la terre. Je reviendrai sur le verset. Ukmoshe amru zichonam mi'bracha, et ainsi qu'on dit nos maîtres, que leur souvenir soit en bénédiction, Ba'agada beperek Rabbi Akiva, dans un enseignement de l'Agada, dans le chapitre de Rabbi Akiva, dans le traité de Shabbat, page 89a, Hoil umi'atta et atzmecha, puisque tu as amoindri ta personne, tu as été humble, tikare a Torah al shimcha, la Torah sera nommée de ton nom. Sheneemar, zichlu Torah Moshe Abdi. C'est ce que dit le verset du prophète Malachi, c'est l'avant-dernier verset de la prophétie. Zichru Torah Moshe Abdi. Souvenez-vous de la Torah de Moïse, mon serviteur. Et Dieu parle dans ce verset, dans le prophète Malachi, de la Torah comme si elle est la Torah de Moïse. Ukmoshe Idbaer, Ukmoshe Mevoir, et comme cela a été expliqué. Alors je vais reprendre donc. Cette première explication du Maharal, je la commencer par la fin. Alors, prenons ce verset de Malachi, qui indique que Moïse a eu ce privilège que la Torah soit nommée de son nom. Il y a le premier mot du verset qui est très important. Zichru Torat Moshe Abdi. Souvenez-vous de. C'est plus que simplement se rappeler que la Torah de Moïse existe. Un rappel de la mémoire. C'est, je proposerai le terme de mémoriser en français. Ça veut dire, il y a ici quelque chose d'important que je voudrais rappeler, pour ceux que l'on peut-être déjà étudié. Ce que révèle la Torah ne peut pas être trouvé par l'homme. Fût-ce, et même dans le cas d'une capacité d'intelligence exceptionnelle. L'intelligence humaine n'a aucun moyen de trouver par elle-même ce que la Torah a à dire. Il peut arriver que, de là, du détour d'une réflexion profonde, importante, par hypothèse, l'homme pense, ou mitkaven, les da'at Torah, pense, par hypothèse, à quelque chose que la Torah dit. Mais cela est contingent, et cela n'est pas assuré. Je reprendrai cela dans des vocabulaires un peu différents jusqu'à ce qu'être assuré que l'idée soit bien entendue. C'est-à-dire, il faut que l'homme arrive, premièrement, il faut que l'homme arrive à la limite de ses capacités d'intelligence autonome pour que la Torah commence à parler. Par définition, la Torah est une révélation de connaissances. Si l'homme en était capable par lui-même, elle n'aurait pas à se révéler. Et très souvent, le Talmud, le Midrash, la tradition orale, met en évidence que dans la forme de tel ou tel verset, dans les catégories ou dans les termes employés par les versets du texte, du Mikra, il y a une sorte de confirmation concernant tel ou tel ordre de connaissance humaine que l'homme n'a pas à s'attendre à recevoir de la Torah, que l'homme devrait connaître par lui-même, mais étant donné le caractère, comment dire, imparfait de notre capacité de connaissance, il est nécessaire qu'en passant, ou que comme en passant, dans sa formulation formelle, la Torah confirme que c'est plutôt comme ça qu'autrement qu'il faut penser, dans l'ordre de la pensée humaine autonome elle-même. Et c'est un des objectifs du Midrash. Lorsque le Midrash pose la question, qu'est-ce que cela vient nous apprendre? Le fait que le verset soit exprimé comme ça plutôt qu'autrement, ça veut dire qu'est-ce que ça vient nous confirmer, comme en passant? Ce n'est pas l'objet de la révélation du verset, mais... puisque le verset a parlé ainsi, nous pouvons en tirer ce qu'on appelle dans le langage talmudique une asmarta, un smach. Nous pouvons nous baser sur la forme du verset pour confirmer que dans l'ordre de la réflexion humaine autonome, c'est plutôt ainsi qu'autrement qu'il faut penser. Je vous en ai un exemple que nous avons peut-être étudié une fois. Vous savez que lorsque la Torah décrit la formation de l'homme, c'est dans le verset 7 du chapitre 2 de la Genèse. Il y a une caractéristique du verset, vous le vérifierez par vous-même. C'est le mot de Vaïtzer, et Dieu forma. Cette racine, Vaïtzer, c'est la racine Yatzar, Yud Tzadé Resh. Et la forme grammaticale, pour dire la troisième personne singulier du futur, c'est, il faut ajouter un Yud devant la racine. C'est familier en grammaire, Ken. Alors, Yatzar, et il formera, c'est Yitzer. Il faut ajouter le Yud de la troisième personne du singulier masculin à la racine. Et Vaïtzer, ça le transforme en passé. Un peu de grammaire rapide. Et normalement, l'hébreu contracte les deux Yud quand les deux Yud se suivent. Et il faudrait qu'il y ait un seul Yud avec un dagesh dans le Yud pour indiquer qu'un Yud est tombé. C'est clair? Mais la Torah a écrit avec les deux Yud. Je reviens sur la définition. Nous avons un mot dont la forme demande à être expliquée. Pourquoi la Torah a écrit ce mot de Vaïtzer avec deux Yud? Ce même mot va être repris au verset 14, 19 du même chapitre pour dire la formation de l'animal. Et là, Vaïtzer, pour les animaux, c'est écrit avec un seul Yud. Alors, je veux dire deux choses. La raison pour laquelle, dans l'écriture de la Torah, il y a deux Yud, c'est pas ça que le Midrash va enseigner. Ça fait partie de la Kabbalah. Pourquoi ici, il y a apparemment, comme disent les savants de la Bible à l'université, une faute de copiste. C'est-à-dire qu'au lieu d'écrire avec un Yud, on a écrit avec deux Yud. Okay. Vous connaissez c'est ce type d'explication banalisante. Okay. C'est quand on ne sait pas qu'on dit qu'il n'y a rien à savoir. Et alors, la vraie raison, ça s'étudie dans la Kabbalah. Que signifie ce double Yud? Donc. Mais le Midrash, lui, va travailler autrement. Si déjà c'est écrit avec deux Yud, qu'est-ce que ça peut nous apprendre sur des problèmes qui sont de l'ordre de notre propre réflexion autonome d'homme? Mais la Torah a un avis là-dessus. Est-ce que c'est clair? C'est-à-dire, ce que nous allons apprendre là, la Torah n'a pas à nous le dire. Si elle avait à nous le dire, nous ne serions pas les hommes à qui elle parle. Elle ne parle qu'à ceux des hommes qui ont assumé leur capacité de connaissance humaine. Et à ce moment-là seulement, elle a révélé ce qui est caché pour tout autre. Ce qui est caché, un point. Par définition, si la Torah est une révélation, elle révèle ce qui est caché. Et lorsque l'on a l'impression que ça va de soi, ce que la Torah dit, c'est le signe qu'on n'a rien compris. Je pense que c'est clair. Hein, la Torah ne vient pas nous révéler des banalités, des lapalissades, avec lesquelles d'ailleurs de très grands penseurs font des thèses entières. Est-ce que c'est clair ce que je dis là, okay? Pas tellement. Je veux dire, lorsque je lis... Attends, j'y arrive. Je suis au bord du bord. Okay? J'y arrive. Attendez que je me branche sur cette question. Par exemple, si j'ai un verset qui dit « Ô homme, j'invente, hein, sache que le bien, c'est bien, et que le mal, c'est mal. » C'est joli. Bon, ça veut rien dire. Exactement. Si j'ai un verset comme ça, okay, alors je peux être sûr que j'ai rien compris. En pensant que ça va de soi, c'est tellement clair. Okay, tellement évident. S'il y avait un verset comme ça, ça voudrait dire qu'il faut, la Gemara dit, il faut pleurer jusqu'à comprendre. Mais qu'est-ce qu'il veut me dire? Est-ce que c'est clair? Regardez ça avec Rashi. Chaque fois que Rashi est simple, c'est qu'il est très difficile. Okay. J'en profite, avant d'arriver au contenu du verset, c'est que Rashi d'ailleurs, mais surtout les versets de la Torah, parlent à chacun au niveau de ses limites de connaissance où il est arrivé. C'est pourquoi nous avons là, si vous voulez, le caractère de diagnostic. Qu'est-ce que c'est qu'un texte traditionnel? Okay. Est-ce que c'est clair? Et chacun entend au niveau où il se trouve. Alors on croit que c'est des opinions différentes. Non, le verset n'a qu'une vérité, mais elle peut se formuler au niveau de capacité de connaissance de chacun. Il y a un midrash qui relie cela au fait qu'au moment de la révélation du Sinaï, le peuple était étagé sur la montagne. Moïse au plus haut, et le plus bas était encore très haut pour nous. Et chacun entendait ce que la même voix dit à son niveau de capacité d'écoute. Et ça ne veut pas dire que tout est permis, c'est mon oreille qui parle. Pas du tout. Est-ce que c'est clair? C'est la bouche de Dieu qui parle, et c'est mon oreille qui écoute au niveau où elle est. Et tout est vrai, mais à des niveaux différents. Est-ce que c'est clair? Ce que j'essaye d'évacuer là, c'est l'idée d'un relativisme de la lecture du texte révélé. C'est vrai qu'il y a 70 opinions, chaque fois, sur chaque verset. Bon, il y a d'autres images numériques. Mais ça ne veut pas dire du tout que n'importe quoi peut être dit. Ici, à propos des 70, c'est sur le verset « Kepatish yifutset sela ». Ça veut dire que les paroles de la Torah ont été comparées aux étincelles qu'un marteau fait jaillir en frappant le rocher. « Kepatish yifutset sela ». Alors vous avez une étincelle qui dit ça, une étincelle qui dit ça, elles sont toutes vraies, mais elles disent la même chose dans des dimensions différentes. Tant qu'on n'a pas compris qu'elles disent la même chose, on n'a pas compris ce que chacune d'entre elles éclaire. C'est bien clair. Alors que ça s'est inversé, et c'est arrivé à une sorte de relativisme. Je crois que dans le monde chrétien, on appelle ça le subjectivisme de l'exégèse protestante. Je me trompe, quand même. Le grand conflit entre les catholiques et les protestants, c'est que les protestants disent « c'est ce que je lis que le texte dit ». Ça s'appelle le subjectivisme. Okay. Et en général, c'est des choses, comment dire, que la pensée humaine peut arriver à formuler par elle-même. Parfois, il y a de belles choses. En général, c'est pas un chidouche, c'est pas une. C'est de la pensée de l'homme que l'homme projette sur ce qu'il lit. Il parle avec son cœur et il ne parle pas avec son cerveau. Vous comprenez à peu près ce que je veux dire. Mais ce que je voulais dire, cela, c'est pas un genou, on est aidé par le français. Il y a un pastiche de la Bible. Le pastiche de la Bible, c'est la projection du lecteur sur le texte qu'il lit. Alors, vous voyez, en hébreu, c'est kepatish, et peut-être c'est là. Alors, kepatish, et patish, c'est le marteau. Et en fait, dans la méthode de cet exemple de Midrash que j'ai signalé, Maï dirtib, voilà comment le Midrash introduit son enseignement. Que signifie le fait qu'il soit écrit ainsi? Maï dirtib, ça ne veut pas dire que dit ce verset. Maï, ça veut dire pourquoi c'est comme ça que c'est écrit. Qu'est-ce que nous pouvons en comprendre comme implication pour notre propre réflexion? Je vous donne ce que dit la Gemara. La Gemara va parler, dans la Maseret Brachot, d'une sorte de dualité dans l'identité humaine. Le fait qu'il y ait deux yud dans le Vayitzer indique qu'il y a dualité dans l'identité humaine, ce qui n'est pas le cas pour l'identité animale. Donc le problème moral ne se pose pas à l'identité animale, il se pose à l'identité humaine, parce que le problème moral, c'est le problème de la liberté de choix entre les contraires. Voilà ce que la Gemara indique, dans trois enseignements dont j'en cite un seul, sinon ça nous prend trop de temps. Elle dit voilà, Rav Nachman Bar Yitzhak. Rav Nachman Bar Yitzhak dit, le fait qu'il soit écrit Vayitzarik de Yud, ça indique que nous avons deux Yetzarim, deux penchants. Un, le Yetzer Tov, l'autre, le Yetzer Hara. Alors, que ce soit bien clair, ce que Rav Nachman Bar Yitzhak veut nous faire entendre, c'est pas que la Torah nous révèle ici qu'on a deux penchants. Parce que si je ne le sais pas par moi-même, la Torah n'a rien à me dire d'autre. S'il faut qu'elle commence par me dire que le feu brûle, c'est que je ne suis pas pompier. Vous vous rappelez de l'image que j'emploie très souvent, okay? Si la Torah était un manuel pour pompiers, imaginez un manuel pour pompiers qui commencerait par, premièrement, le feu brûle. Deuxièmement, l'eau éteint le feu. À qui on parle? Est-ce que c'est clair? Top, c'est bien clair. C'est pourquoi je vous dis souvent, il n'y a pas de théologie dans la Torah. Mais, là, c'est un sujet pour lui-même. Ça veut dire que la Torah n'a pas à me révéler cela. Parce que si elle me le révèle, c'est que je ne suis pas un homme authentique, c'est pas à moi qu'elle parle. Mais étant donné la perplexité sur ce problème, on va entendre, grâce au fait que d'autre part, pour des raisons qu'elle a, la Torah a écrit de Yud dans ce mot, pour indiquer cela, qu'elle vient me confirmer que parmi les quatre hypothèses possibles dans ce sujet, je vais les énumérer, il y en a une seule qui est compatible avec la Torah, que nous avons deux instincts, un du mal, un du bien. Un du bien, un du mal. Pourquoi? Parce que, j'analyse un peu maintenant cet exemple, lorsque l'homme, dans son introspection morale, se demande comment Dieu l'a créé, il découvre en lui une antinomie, une contradiction épouvantable. Il est à la fois fait d'une tendance au bien, à vouloir le bien, et d'une tendance au mal, à vouloir le mal. Le bien comme il le connaît, le mal comme il le connaît. Il faut donc, encore une fois, une épuration d'honnêteté dans cette connaissance. Vous savez que dans l'histoire des cultures, il y a eu quatre thèses. Il y a une thèse qui vous dit « L'homme est naturellement mauvais. Le bien, il l'acquiert par l'éducation. » D'où ça vient? Les anges, la société, les prêtres, peu importe. Il est acquis. Sa nature est d'être mauvaise. On trouve ça surtout chez les gnostiques. Le créateur de l'homme est un dieu mauvais parce qu'il a créé une créature mauvaise. Mais il y a du bien dans... Non, le bien est acquis. Et c'est pourquoi les gnostiques, en général, avaient tendance à prôner le célibat. Le blasphème, c'est de faire des enfants. Pourquoi? Parce que ça consiste à créer des victimes de ce Dieu mauvais qui crée des êtres méchants. Est-ce que c'est clair? Bon, c'est la gnose. Donc, tombez pas dans le piège que quand on découvre une thèse de ce genre, on se dit, tiens, peut-être ils ont raison. Je continue. C'est vrai que l'homme est méchant, mais pas que ça. Donc cette thèse est fausse. La deuxième thèse consisterait à dire, eh bien, que l'homme n'est que bon. Et c'est la société qui l'a corrompu. C'est une thèse qu'on fait dire, qu'on attribue à Rousseau. Rousseau est beaucoup plus nuancé que cela. Oui, c'est la deuxième thèse. L'homme n'est que bon, et bon, il y a du bien en lui, naturellement, mais voilà qu'il y a du mal. Le mal, ça vient de l'extérieur. Rousseau n'était pas si naïf que ça. Donc, une troisième thèse qui consisterait à dire la nature humaine est indifférenciée du point de vue de la morale. Tant le bien que le mal, c'est acquis par l'éducation, l'expérience, la vie, l'histoire, etc. Et vous trouvez là le relativisme de l'amoralisme. Je ne dis pas l'immoralisme, mais de l'amoralisme, de beaucoup de tendances dans certaines religions et dans beaucoup de courants humanistes. La Torah vient nous dire, l'homme est créé intentionnellement par un créateur unique avec une tendance au bien, et c'est lui cette tendance au bien, et une tendance au mal, et c'est lui cette tendance au mal. Alors, si on fait une assesse d'honnêteté, une catharsis d'honnêteté, la question se formule ainsi. Qu'en est-il en vérité? Comment je me connais? Et alors, le courage de l'honnêteté consiste à acquiescer à cela, quelle que soit l'invraisemblance, et cette invraisemblance est tardive. C'est pourquoi c'est dans la Gemara qu'on a jugé utile de mettre ça en évidence. Avant, on n'avait pas besoin, la vérité allait de soi. Elle est tardive, elle s'attache à la culture contemporaine. C'est avoir ce courage de se dire, oui, c'est moi le bien que je veux, c'est moi qui le veux, c'est moi le mal que je veux, c'est moi qui le veux. Donc on n'est pas arrivé à cette sincérité-là, la Torah n'a rien à nous dire. Je veux dire, la Torah n'a pas à nous révéler cela. Cela, c'est un contenu d'évidence que l'homme, par sa propre capacité de connaissance, doit arriver à trancher. Et c'est de l'ordre de la sincérité, de l'honnêteté. Je reprends un peu l'analyse, je ne sais pas s'il était suffisamment clair. Peut-on vraiment dire l'homme n'est que bon ou l'homme n'est que méchant? De quel homme on parle? Peut-on vraiment dire que l'homme est moralement neutre? De quel homme on parle? Alors, il faut avoir le courage d'admettre la réalité comme elle est. Le mal que je veux, c'est moi qui le veux quand je le veux, Dieu préserve, mais le bien que je veux, c'est moi qui le veux quand je le veux. Et il y a une vision de l'identité humaine et de la vérité du problème moral qui est bien caractéristique. Alors encore une fois, la Torah n'a pas à me révéler cela. Cela, c'est moi, par ma capacité de connaissance, moi, homme, par ma capacité de connaissance, que je dois l'intégrer, le posséder, le savoir, y arriver. Comme il y a une perplexité, étant donné la difficulté, comment le même Dieu qui crée le penchant au bien, et ça je le connais, c'est très bien, c'est mon ange, si vous voulez, mon ange bon, mais aussi le penchant au mal, et moi, homme, je sais que ça veut dire avoir envie du mal, et c'est Dieu qui m'a mis cette tendance en tant que créature, alors c'est tellement invraisemblable qu'il faut à un certain moment de la perplexité sur ce problème que nous ayons une confirmation. C'est oui, c'est bien ce que la Torah entend. Et alors, minute, j'ai vu. Rav Nachman Bar Yitzchak dit, on va profiter du fait que pour les raisons qu'elle a, l'écriture, la mise par écrit, a mis deux youds ici pour dire, eh bien voilà, il y a une implication très claire qu'on va mettre en évidence, ça confirme la thèse des deux penches. Vous avez compris ce que je veux dire tout à l'heure, par cet exemple, en disant, la Torah ne révèle que ce qui est caché, inaccessible, Sechel Elyon, dit le Maharal. Et par conséquent, quand, je reviens là-dessus, je crois que c'est important, quand j'ai l'impression que la Torah vient confirmer quelque chose que moi j'ai même pensé, que moi-même j'ai pensé, pardon, c'est que je me suis trompé. C'est que moi j'ai des raisons et des intérêts à faire dire à la Torah ce que je pense. Est-ce que c'est clair? Surtout quand ça a l'air d'aller de soi. Alors je reviens, question grammaticale. Le problème c'est que la forme normale, et elle est employée pour l'animal, c'est Yudag Dagesh. Le Dagesh représentant le Yud qui, comme disent les grammairiens, est tombé en syncope. La syncope du Yud. On pourrait faire un roman avec ça. Mais la Torah a tenu à garder les deux Yud. Est-ce que j'ai ici un Tanakh? Écoutez, comme c'est écrit petit, je ne peux pas voir. Vous allez prendre le chapitre 2 de Bereshit, verset 7. Vous verrez comment c'est écrit. Après, vous prenez le verset 19. Ah bon, j'ai la loupe, c'est vrai. Non, c'est pour avoir le temps d'aller lire. Vous y êtes? Vous allez lire comment c'est écrit. Et après, on continue. Hein.
En termes islamiques.
J'entends pas. Ah, j'y arrive. Je me rappelle, j'y arrive. C'est-à-dire où se range l'islam dans ces quatre catégories? Bereshit Bet Zayin. Ça va? Oui, Vaïtzer avec deux Yud, Ken. Alors prenez le verset 19, si c'est bien. Oui, dans lequel des.
Dans le premier,
il y a fait. Et prenez maintenant le verset 19. Hein? Vaïtzer avec un seul Yud. Voilà. Alors la Gemara va confronter ces deux versets. Le premier Vaïtzer concerne l'identité humaine. Elle va nous dire, ça met en évidence une dualité essentielle à l'identité humaine. Je vous ai donné que un des trois exemples de l'enseignement. Si ça vous intéresse, je peux vous le donner complet. Alors que l'identité animale n'a pas cette différenciation de dualité. La Gemara va d'ailleurs discuter. Elle va nous obliger à déceler chez l'animal quelque chose qui ressemble à cela. Et c'est la raison pour laquelle on a besoin d'une deuxième opinion. Elle ne suffit pas, il faut une troisième. Alors que c'est ce que je vous propose, on est au début du séminaire, puisque cet exemple vous intéresse, je vais vous le lire dans la Gemara, mot par mot. Si quelqu'un peut aller au bureau et demander une Maseret Brachot de la bibliothèque. Okay? Brachot. On vous attend. N'ayez pas peur. Entre-temps, on parle d'autre chose. Pardon ? C'est plus que vraisemblable. Je vous dirais même que, d'ailleurs, je cite Chouchani aussi, alors laissez-moi retrouver les calculs, 4 fois 600 000, ça fait 2 400 000. Il y a 2 400 000 lectures de base de chaque verset. Et je vous expliquer pourquoi. Et chacun a son ridouche personnel, il change tout, à toutes les heures. Ça veut dire « en hekel et bunato ». Ça veut dire la connaissance de la Torah est dans son... sa nuanciation diapré, je ne sais pas comment dire ça, est infinie. Okay, mais il faut d'abord savoir que c'est la Torah qui parle, et pas lui faire dire n'importe quoi. Parce qu'il peut y avoir 2 400 000 lectures fausses, hérétiques. Vous savez qu'il y a 4 niveaux de sens à chaque verset, à chaque mot. Et comme il y avait 600 000 âmes au pied du Sinaï, 600 000 par 4, ça fait 2 400 000 lectures de base.
Et justement,
c'est encore autre chose, oui.
Là aussi, j'ai un premier renseignement selon lequel à chacun de ces niveaux correspond l'eau, le vin, le miel, le froid et
puis. Ça se rattache à ce que nous étudions, ok.
Oui.
C'est. Eh bien, c'est ça. On en a 3 ici et je voulais parler de la 4e après. Devash vechalav tahad leshoner. C'est cela. Okay. En attendant, monsieur, j'ai oublié comment il s'appelle. Hein?
C'est vrai.
Puisqu'on parlait du Pardès, je crois que je vous ai cité ça une fois. Pardon? Oui, je n'ai pas oublié. Vous savez que Pardès, c'est Pshat, Remez, Drash, Sod. Okay? Mais si on commence par le Sod, on a le nom Sfarad. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça. C'est un Sod. Vous savez que la Kabbalah est sfaradite. Regardez comme c'est. Bon, c'est des coïncidences, évidemment. Qu'est-ce que vous voulez dire?
Pour illustrer la relation entre Rachid et Rachid, on a première, c'était la grand-mère. Si Rachid normalement ne devrait être Rachid,
non.
Rabbi Shimon, Rabbi Shlomo, Ben Yitzhak.
Quel Yitzhak. Non, c'est Rabbi Shlomo Yitzhaki. Voilà. Vous me rappellerez de parler un peu de Rabbi Omer tout à l'heure. Mais enfin, je vais vous dire, non, ça nous mènerait trop loin. Cette capacité qu'ont eu les grands maîtres de nous permettre, de permettre à Moïse de parler en chaque temps, c'est toujours Moïse qui parle. Que ce soit Rashi, que ce soit Rashbi, que ce soit Nahon. Bon, je crois que ça suffit de le dire comme ça. Alors avant de voir la Gemara elle-même, je crois que ça vaut la peine de l'étudier, comme cet exemple, je vais essayer de vous caractériser ces 4 positions pour y situer l'islam. Eh bien, l'islam se situe, ça peut vous paraître assez paradoxal, c'est une ferveur et une foi spirituelle absolue pour le musulman dans sa profession de foi que je vais essayer de décrire par rapport au problème moral. Tant le mal que le bien viennent de l'extérieur de l'homme. C'est-à-dire, c'est pas l'homme qui est responsable de son comportement moral. C'est Dieu qui fait tout. Il y a dans l'islam une attitude de soumission absolue à une transcendance absolue du Créateur. C'est un monothéisme réel et qui est compatible avec le monothéisme hébreu. C'est pas le même et c'est pas du tout la même sensibilité religieuse. Mais je veux dire qu'il y a une bonne foi spécifique de la conscience musulmane comme telle, et l'erreur des non-musulmans, c'est de projeter sur les musulmans leur propre conception de la moralité. Ça aboutit à des impasses politiques d'ailleurs. Voilà. Lorsque, pour le musulman, c'est Dieu qui décide tout, mais par 2 biais différents. Lorsqu'il décide le bien, c'est par l'ange Gabriel. Lorsqu'il décide le mal, c'est par le shitan, c'est-à-dire le satan, à la manière de l'islam. Alors lorsqu'un musulman fait le mal, il dit « Tiens, vu ce que satan a fait avec mon bras gauche. » Et lorsqu'il fait le bien, il dit « Grâce à Dieu, ce que l'ange Gabriel a fait avec mon bras droit. » Lui, il n'a jamais rien fait. Et je vous parle de la foi musulmane profonde, orthodoxe, authentique. C'est un blasphème pour la conscience musulmane de croire qu'il y a une part de liberté quelconque à la créature. Est-ce que c'est clair? Oui, c'est un monothéisme et d'une toute autre sensibilité religieuse. Alors, il faut entendre la parole musulmane dans les catégories de la foi musulmane. C'est malhonnête, si vous voulez, de donner un contenu à une parole musulmane à travers des catégories chrétiennes ou à travers des catégories juives et réciproquement d'ailleurs. Encore une fois, ça ne veut pas dire que ce monothéisme manque de grandeur. Ce monothéisme qui a sa grandeur propre. Islam, en hébreu, ça se dit achna'a. Achna'a, c'est soumission totale. Okay? Seul le Créateur est tout puissant, dirige son monde et tout vient de lui. Alors vous voyez que le problème moral va prendre une apparence très précise. Ça se rend dans cette catégorie, c'est clair ? C'est pire que ça. C'est pire que, dans les conséquences, c'est pire que ça. Ça ne signifie pas qu'il n'y a pas une politesse de la conscience musulmane, une civilité. Mais elle est hors des catégories de la moralité